4e jour d'un bras de fer tendu entre la direction et les syndicats de la SNCF sur le droit de retrait. La circulation s'améliore ce matin. Les TGV et les Ouigo devraient rouler normalement, tout comme les Transiliens. En revanche, quelques difficultés encore sur les TER, avec 3 trains sur 4 en moyenne en circulation et 2 intercités sur 3. Des différences à prévoir également en fonction des régions. En Occitanie, le mouvement a été très suivi depuis vendredi. Alors qu'en est-il ce matin? Nous retrouvons Suzanne Chaudjahi en gare de Toulouse-Matabiau. Quelle est la situation ce matin?
Alors ça s'annonce bien meilleur que ce week-end, hein, avec une reprise progressive du trafic dans la matinée. Circulation quasi normale pour les TGV et les trains Ouigo. La ligne Toulouse-Paris fonctionne, comme la liaison avec Tarbes. 2 allers-retours sur 3, en revanche, sur l'axe Toulouse-Lyon. Ça coince aussi un peu pour les trains régionaux. 6 TER n'ont pas circulé en direction de Toulouse ce matin. Les prévisions sont meilleures à partir de 7h30. Pour les départs de trains régionaux, le ciel s'éclaircit pour les voyageurs. Tous les TER sont annoncés au départ de Toulouse. Et si jamais il y a des perturbations, c'est à cause de la remise en place des ressources, explique la SNCF. D'ailleurs, c'est un peu délicat pour les voyageurs parce que les informations tombent très tard. Par exemple, le TER pour Brive, qui doit partir dans un quart d'heure, n'est toujours pas affiché. C'est donc une amélioration, oui, mais beaucoup d'incertitudes pour les clients SNCF qui restent suspendus aux écrans d'affichage.
Merci Suzanne Chaudjahi à la gare Matabiau de Toulouse pour Inter ce matin. Et depuis vendredi, ce mouvement surprise a pris de court des dizaines de milliers de voyageurs, qui plus est en ce début de vacances de la Toussaint. Le président de la SNCF, Guillaume Pépi, a donc annoncé la création d'un fonds d'indemnisation pour les voyageurs qui ont subi des dommages exceptionnels. Guillaume Pépi.
Tous les billets, sans exception, sont intégralement remboursables à 100%, même si il y a marqué dessus non échangeable, non remboursable, ou même si ce sont des billets Ouigo. Il y a beaucoup de gens qui ont renoncé à voyager ou dont le train a été supprimé. Donc 100% de remboursement. Et puis la deuxième mesure qui est tout à fait exceptionnelle, c'est que j'ai décidé de créer un fonds d'indemnisation doté d'1 million d'euros pour nos voyageurs qui ont eu des dommages exceptionnels, par exemple des gens qui ont perdu une nuit d'hôtel ou qui ont dû dépenser une nuit d'hôtel, des gens qui ont été obligés de prendre un autre billet de train et qui ont payé un autre billet de train, voire un billet d'avion. Bref, des gens qui, parce qu'ils partaient en week-end, en vacances ou qu'ils se déplaçaient en grande ligne, ont, du fait de cette grève surprise, eu un dommage particulier.
Guillaume Pépi, hier soir sur France Info. Voilons donc pour les détails pratiques. Sur le fond, rien n'est réglé. Les syndicats continuent de dénoncer des risques pour la sécurité lorsqu'un conducteur se trouve seul à bord d'un train, comme mercredi dernier lors de la collision d'un train avec un camion à un passage à niveau dans les Ardennes, ce qui a déclenché ce mouvement surprise. Rappelons enfin que Guillaume Pépi cédera sa place à la tête de la SNCF dans 10 jours à Jean-Pierre Farandou.
Il est 7h05, Agnès. Le service national universel passe à la vitesse supérieure.
2000 jeunes en juin dernier, autour de 30 000 en juin prochain. Le secrétaire d'État en charge de la jeunesse, Gabriel Attal, annonce ce matin dans Le Parisien, aujourd'hui en France, la montée en puissance donc d'un dispositif qui concernera tous les départements, avec une campagne de recrutement qui va débuter en janvier pour la promotion 2020. Quant à la promo 2019, elle entame la seconde phase du dispositif, la mission d'intérêt général, 2 semaines au sein d'une association ou d'une institution. La première phase avait eu lieu en juin dernier, 15 jours de cohésion dans l'un des 14 centres en France. Alors bilan à mi-étape, signé Alexis Morel.
À en croire l'enquête du ministère, la phase de cohésion de juin a plu aux jeunes. 94% des ados interrogés se disent satisfaits ou très satisfaits. Rappelons tout de même qu'ils étaient tous volontaires cette année. Ce qu'ils ont trouvé intéressant, d'abord les activités sportives et les modules défense-sécurité, loin devant les activités citoyenneté ou développement durable. On le reconnaît au ministère, le rythme de cette quinzaine était soutenu, pas toujours compatible avec, je cite, « la fragilité du public adolescent ». Un euphémisme pour Kevin Boiveau, encadrant au centre de Vannes et syndicaliste étudiant.
Il y a eu des jeunes qui étaient très fatigués, jusqu'à même des fois des malaises. C'était des journées assez intenses qui commençaient à 6h30. De 6h30 à 22h, c'était assez chargé. Et puis après, le temps de récupérer de leur journée, le temps de sommeil n'était pas très important.
Kevin Boiveau qui s'interroge sur ce qu'ont retenu vraiment ces adolescents.
Des jeunes sont ressortis contents d'avoir rencontré de nouveaux amis, etc. Mais je pense que c'était pas l'objectif premier en fait du service national universel, que ça soit transmettre un socle commun républicain ou développer l'engagement. Tout ça, ça ressort pas tout de suite.
Au ministère, on estime que cette phase test est clairement réussie, tout en reconnaissant que le passage de 2000 volontaires à 800 000 jeunes appelés d'ici quelques années pose de nombreux défis.
La lutte contre les violences conjugales passe aussi par la lutte contre l'alcoolisme. C'est le message de deux lettres adressées au ministre de la Santé et de l'Égalité hommes-femmes rendu public ce matin. Les spécialistes des addictions estiment que l'alcool est le grand absent du Grenelle contre les violences conjugales, alors que dans 55% des féminicides, au moins l'un des deux a bu ou consommé de la drogue. Aux États-Unis, ce sont les géants de l'industrie pharmaceutique qui sont accusés d'avoir organisé la dépendance aux opiacés, une crise sanitaire qui ravage le pays depuis la fin des années 90 au point d'avoir fait baisser l'espérance de vie. Le premier procès fédéral doit s'ouvrir dans l'Ohio pour déterminer les coupables de ce désastre. Et ce, Loïc Loury, après l'échec de négociations entre plaignants et laboratoires.
11 heures de négociations et 50 milliards de dollars sur la table pour rien. Il n'y aura pas eu vendredi dernier d'accord de dernière minute. Plusieurs mastodontes de l'industrie pharmaceutique vont donc se retrouver dès ce matin sur le banc des accusés. Parmi eux, le laboratoire Teva, notamment basé en Israël, et trois grossistes en médicaments. Tous sont pointés du doigt pour avoir alimenté la crise en poussant à la surconsommation de médicaments ultra-addictifs. Plusieurs géants, toutefois, manqueront à l'appel, comme le laboratoire Purdue, fabricant de l'oxycontine. Le groupe, en effet, a déjà proposé de payer 10 à 12 milliards de dollars pour solder ses comptes avec la justice. Le procès qui s'ouvre n'en sera pas moins une première. 2300 plaintes de collectivités au total, villes, comtés, mais aussi tribus amérindienne avec comme objectif de faire payer l'industrie pharmaceutique pour les coûts générés par cette crise. Depuis la fin des années 90, ces médicaments ont entraîné la mort de 400 000 personnes par overdose. New York, Loïc Loury, France Inter.
Au Chili, l'armée est en train de se déployer dans les rues de la capitale en proie à des émeutes qui ont fait au moins 7 morts ce week-end. « Nous sommes en guerre », déclare ce matin le président Sébastien Piñera, qui a étendu l'état d'urgence à plusieurs villes du pays. Le mouvement de contestation a débuté après l'annonce de la hausse du prix du ticket de métro. Le gouvernement a très vite fait machine arrière, mais les manifestants continuent de dénoncer les inégalités sociales. Nous y reviendrons dans le journal de 8 heures. Au Liban, le gouvernement tente de reprendre la main après une nouvelle manifestation monstre hier dans les rues de Beyrouth. Le Premier ministre doit dévoiler officiellement aujourd'hui une série de mesures, dont la réduction de moitié des salaires des membres du gouvernement et la réduction des avantages accordés aux hauts fonctionnaires. À 10 jours de la date officielle du Brexit, la situation est toujours aussi confuse. Les Européens ont reçu hier trois lettres en provenance de Grande-Bretagne, disant tout et son contraire. Boris Johnson affirmant rester ferme sur le calendrier, tandis que les députés britanniques continuent de demander un report de la date. L'Antarctique, nouvelle zone marine à défendre. 24 pays se retrouvent aujourd'hui en Australie pour tenter de se mettre d'accord sur la création d'une zone marine protégée à l'est de ce continent. L'idée, qui date de 2012, peut paraître consensuelle à l'aune des rapports internationaux sur le climat et l'état des océans, mais deux pays s'y opposent, la Chine et la Russie. L'Union européenne et les ONG espèrent donc réussi à faire pression pour que ce dossier avance enfin, Célia Kiré.
L'Antarctique, c'est 70% de la glace mondiale et tout autour des eaux très riches en plancton, élément vital pour les poissons, les grandes baleines ou les oiseaux de mer. La France et l'Australie ont proposé de protéger une petite partie de ce continent, 7% de la surface totale de l'Antarctique. Mais en face, la Chine et la Russie préfèrent défendre leur zone de pêche. Geneviève Ponce dirige l'Institut Jacques Delors à Bruxelles. Elle en appelle à Emmanuel Macron.
À un moment où on se rend compte de la souffrance des océans vis-à-vis du changement climatique, c'est très important que Emmanuel Macron s'engage lui-même et parle avec ceux qui décident.
En 2016, Barack Obama avait bien réussi à convaincre Vladimir Poutine de protéger la mer de Ross, autre partie de l'Antarctique. Pour Ludovic Frère Escoffier du Fonds mondial pour la nature, la France doit monter au créneau.
Il y a un manque crucial de protection des zones importantes pour la reproduction des ressources halieutiques, pour les espèces qui vivent dans l'océan. Au niveau international, simplement 7% de l'océan est sous protection. Et si nous regardons le niveau de protection forte, nous sommes à moins de 2%.
En mars, Emmanuel Macron et Xi Jinping s'étaient engagés à protéger l'océan austral. L'année prochaine, la Chine accueillera une grande réunion internationale, la COP15 sur la biodiversité. Pour les défenseurs de l'océan, ces deux arguments devraient pousser le président chinois à signer cette convention pour l'Antarctique.
Il est 7h11, Agnès, retour à la maison pour le 15 de France.
Les jambes et le cœur lourds, les tricolores quittent le Japon ce matin, après être passé tout près de l'exploit en quart de finale de la Coupe du Monde, défaite d'un point 20-19 après avoir mené durant 74 minutes face au Pays de Galles. C'est également une page qui se tourne puisque plusieurs joueurs ont disputé leur dernier match en bleu, comme le capitaine Guilhem Guirado. Place donc maintenant à une nouvelle génération qui devra briller, Jérôme Val, lors de la prochaine Coupe du Monde, et ce sera en France en 2023.
Bernard Laporte, le président de la Fédération française, le clame depuis plusieurs mois. La France doit être au rendez-vous de sa Coupe du Monde dans 4 ans. 4 ans pour remettre les Bleus sur le chemin du succès. Et le match d'hier, malgré la défaite, est sans doute un premier pas. Ce mondial a été celui de la confirmation d'une nouvelle génération à qui le staff a donné de plus en plus de responsabilités. 4 joueurs alignés hier, dont ceux de la charnière, ont moins de 23 ans. Ce qui laisse de l'espoir à Jacques Brunel, désormais ex-sélectionneur des Bleus.
Je crois qu'on était une des équipes les plus jeunes de la compétition. À travers la génération qui arrive et le potentiel qu'il y a. Justement, cet échec, j'espère que ça va leur servir de leçon. Moi, j'envisage de beaux lendemains pour cette équipe-là.
La France ne manque pas de talent, comme l'ont prouvé les 2 titres consécutifs de champion du monde des moins de 20 ans. Une génération qui doit prendre conscience de son potentiel, estime l'adjoint des Bleus, Jean-Baptiste Elissalde.
C'est long l'éducation. On le sait avec nos enfants, ça prend du temps, il faut rabâcher les choses. Ils sont pas très loin, mais ils pourraient être encore un peu plus près, voire au-dessus. C'est pas beaucoup, c'est un petit quart d'heure de plus chaque jour, une petite demi-heure, c'est courir plus longtemps, plus vite à l'entraînement.
La France se rêve d'un destin à l'anglaise, le 15 de la Rose au fond du trou il y a 4 ans et maintenant aux portes d'une finale et d'un titre. Oita, Jérôme Val, France Inter.
Et en attendant, les demi-finales de cette Coupe du Monde opposeront l'Angleterre à la Nouvelle-Zélande samedi et dimanche le Pays de Galles à l'Afrique du Sud.
Merci Agnès Soubirand.